Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre dans l'ordre, comme pour Adèle, Bruno Donnet et ses télescopages. Notre invité sera l'humoriste Jérémy Ferrari pour son nouveau spectacle Anesthésie Générale. Et puis Lisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame. Tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant la célébrité. Et puis pour clore l'émission, Marc-Antoine Lebray. Bonjour Caroline Speller.
Bonjour Philippe.
Bonjour Stéphanie Loire.
Bonjour Philippe.
Évidemment, puisque je vous ai annoncé, bonjour Bruno Donnet.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous observez ici les essais médiatiques. Et samedi soir, vous avez regardé le match de rugby France-Nouvelle-Zélande sur France 2. Et vous avez été très surpris par la toute première minute de la retransmission.
Oui, 1 minute et 20 secondes précisément, Philippe, pour une séquence absolument saisissante. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au juste ? Eh bien, tout avait commencé de manière on ne peut plus traditionnelle. Le journal de 20h s'était achevé, la pub lui avait succédé et l'indicatif sonore des sports de France 2 venait de retentir. Jusqu'ici, donc, tout allait bien, tout était parfaitement classique et je m'attendais à voir apparaître un présentateur comme d'habitude. Sauf que là, sans cri égard, sans tambour ni trompette, immédiatement derrière le générique, je suis tombé sur ça.
Bâtissez cette évidence qui fait qu'il y a un truc à un moment qui va s'imposer, à la fois à vous, au collectif et aux autres, c'est ça le plus important.
Emmanuel Macron était en train de s'adresser aux joueurs de l'équipe de France de rugby. Alors j'ai d'abord cru que la séquence était retransmise en direct, car à l'image, le président de la République se trouvait dans une grande pièce, entouré des joueurs et de tout le staff de l'équipe. Mais en fait, non, car en haut à gauche de l'image était inscrite une petite mention, Marcoussi, lundi 15 novembre. J'ai donc compris que France 2 avait délibérément choisi de débuter sa retransmission par une séquence captée 5 jours plus tôt, ok. Mais alors, qu'avait-elle d'à ce point exceptionnel pour mériter l'ouverture ? Eh bien, à la fois rien et tout, Philippe. Rien, car Emmanuel Macron s'est contenté d'enchaîner de grandes banalités.
Il n'y a pas de grande équipe s'il n'y a pas de grands bonshommes.
Waouh ! Et tout, car le président de la République s'est adressé aux joueurs d'une manière totalement incongrue. D'abord, il a opté pour un ton incroyablement paternaliste.
La deuxième chose, c'est que continuer à grandir individuellement.
Bon, je rappelle qu'il y en a qui font 2 mètres et plus de 100 kilos. Mmh. Mais surtout, surtout, il s'est adressé à eux comme s'il était lui-même un immense sportif doublé d'un grand entraîneur de rugby. Écoutez.
Il y aura des doutes, il y aura des moments difficiles. Et je pense que ça, c'est plus grand que nous.
Voilà. Alors en fait, le président de la République s'est trompé. Ou plus exactement, il a fait semblant de se tromper. Il a causé aux rugbyman français, qui sont d'immenses champions et qui n'ont nul besoin des conseils d'un gars qui a probablement jamais marqué le moindre essai de sa vie, et surtout pas face aux All Blacks, comme s'il s'adressait à ses ministres ou à son équipe de campagne.
Je pense pas qu'on puisse gagner quelques grandes compétitions que ce soit si on se ment à soi-même, ou qu'on oublie d'où on vient, qui on est, les valeurs qui nous ont forgés.
Car le but pour Emmanuel Macron, en termes d'image, en termes de communication et à l'aube de la campagne présidentielle, c'était bel et bien d'apparaître devant les caméras comme un chef d'équipe, comme un coach capable d'insuffler une dynamique à un groupe, mieux que ça, à un pays tout entier.
Ce pays qui nous dépasse, les couleurs qui sont les nôtres, ce collectif que vous représentez, c'est aussi ce qui doit, dans ces moments-là, vous conduire à vous transcender.
C'est très bien joué de sa part, mais alors pour quelle raison France 2 a-t-elle accepté de diffuser un machin pareil ? Et surtout, pourquoi cette séquence croquignolesque a-t-elle été suivie de cette phrase sortie de la bouche du présentateur ?
Les mots forts du président de la République cette semaine à Marcoussi en disent long sur l'importance de ce match entre la France et la Nouvelle-Zélande.
Où y avait-il des mots forts là-dedans ? Et quelle était l'urgence de les diffuser devant plus de 6 millions de téléspectateurs, 10 jours à peine après une 8e allocution du président de la République à 20h, très critiqué par les oppositions qui ont toutes dénoncé une saturation de l'espace médiatique par la parole présidentielle. On se le demande. Fort heureusement, Philippe, le service des sports de France Télévisions abrite aussi une remarquable éditorialiste politique. Elle s'appelle Cécile Gray et, mine de rien, lorsque le présentateur lui a demandé comment était l'ambiance à la sortie du vestiaire, elle a répondu ceci.
Mais beaucoup de concentration, évidemment. Homme de peu de mots ce soir, Fabien Galthié, il le sait, il ne faut pas parler, il faut agir face aux All Blacks.
Il ne faut pas parler, il faut agir. Eh oui, le président de la République était déjà médecin, épidémiologiste à 16h, mais avant de devenir entraîneur de rugby, va falloir qu'il bosse encore un peu.
Et les All Blacks ont gagné. Merci beaucoup Bruno.
Non, les Français ont gagné.
Les Français ont gagné. Plutôt, les Français ont battu les All Blacks. J'ai tellement obsédé par cette belle victoire magnifique, mise en abîme et en lumière du fusil à tirer dans les coins. À demain. Caroline Speller, oui. Votre indispensable du jour. Vous allez parler ou vous allez agir?
Alors, je vais vous parler d'une BD coréenne, c'est Hellbound, et je vous emmène à Séoul, en Corée du Sud, et on n'est pas très loin de l'enfer.
Stéphanie Loire, même question, vos indispensables.
Agir, c'est sûr. Ouais. De l'électro avec le nouveau single de Kavinsky, et puis un rocker qui s'est assagi, comme vous, Philippe.
Mais tellement, merci beaucoup. Dans un instant, Jérémy Ferrari pour nous parler de son nouveau one-man show. Il s'appelle Anesthésie Générale, mais d'abord musique, Cœur de Pirate sur Europe 1.
9h-11h
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Sous les lueurs de novembre, j'espérais reprendre un peu mon souffle, mais le mal comptait ses proies. Je l'imagine encore à mes trousses. Tu es entré dans la danse. J'ai éclipsé ce qui me restait. Les autres n'ont plus d'importance. Tes dires deviennent ma destinée. Mais tant qu'il n'y aura que nos souffles qui pensent mes blessures, je faisais bien. Ensemble une dernière fois, c'est comme si on se connaissait et nos histoires reprennent leurs ébats. Qu'importe ce qu'on dit de nous, on vit à deux ce que l'on ne sait pas. En image on dit adieu, on vit dans ce que l'on ne connaît pas.
On s'aimera toujours, c'était Cœur de Pirate sur Europe 1.
9h-11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Vandel.
Bonjour Jérémy Ferrari.
Bonjour Philippe Vandel.
Humoriste, sniper, pas politiquement correct, j'en passe, je ne sais même pas comment vous présenter. Vous allez rester avec nous jusqu'à 11h, vous allez comprendre qui est ce personnage Jérémy Ferrari, qui n'est pas un personnage, qui est un être humain, qui réfléchit deux spectacles seulement, mais qui ont marqué Alléluia Bordel sur la religion, Vent de pièces à Beyrouth, premier spectacle d'humour consacré à la guerre, en tout 550 000 spectateurs réunis en salle, deux fois DVD de platine, et votre actu, c'est un troisième spectacle, il s'appelle Anesthésie Générale, je vais le dire une fois, mais c'est sert presque à rien. Vous serez aux Folies Bergères du 13 au 24 mars 2022. Il y aura la tournée des Zénith. Vous avez vendu 120 000 billets en précommande sans aucune promo. Comme tous vos spectacles, vous travaillez beaucoup. Vous montez même sur scène dans ce spectacle avec le code de la santé publique. Le plus impressionnant, c'est que vous aviez commencé à écrire ce spectacle avant la pandémie de Covid. Et donc, on peut dire ce type a des intuitions plus que prémonitoires. Vous aviez deux inspirations, si je suis bien informé. Une sur le système de santé en général, une autre sur votre propre cas, et vous avez beaucoup travaillé.
Oui, alors c'est vrai qu'à chaque fois que je fais un thème, je dirais malheureusement, je suis tristement d'actualité, puisque avec Alléluia Bordel, bon, c'était il y a une dizaine d'années, on était tombé en pleine crise communautaire, il y avait des débats sur la burqa, l'affaire Dieudonné, les minarets, quand les gens priaient dans la rue, il y avait cette espèce de discussion autour des communautés, de leur place dans la société, etc. Ensuite, on a fait Vent de pièces à Beyrouth sur la géopolitique et le terrorisme, et là on tombe en plein sur le Bataclan et tous les attentats qui ont suivi est précédé. Et là, anesthésie générale. Déjà, ça démarre avec la grève des urgences, qui est une grève historique où les soignants, quand même, parce qu'on a tendance à oublier quand même que les soignants étaient très, très en colère déjà avant le Covid.
Et c'est pour ça que j'en parle. Je fais la genèse de votre spectacle.
C'est ça, c'est que donc déjà, on s'était dit, waouh, on tombe au pic de colère du personnel soignant, qui était bien normal d'ailleurs, hein, qui l'est toujours, parce que je pense qu'ils sont toujours en colère. Et quelques mois plus tard arrive cette épidémie mondiale. Donc oui, à chaque fois, je suis malheureusement tristement d'actualité. Sauf que là, cette fois-ci, ceci dit, déjà, avant deux pièces à Beyrouth, ça avait été compliqué, parce qu'avec l'attaque du Bataclan, ça avait complètement stoppé les ventes en salle. Bon, finalement, les gens avaient fini par acheter leurs billets et venir voir le spectacle. J'étais bien content, parce que je me suis dit, c'est incroyable. C'était une démarche presque militante de revenir dans les salles. Et puis là, le Covid a stoppé le spectacle. Et pendant pratiquement un an et demi, hein, on n'a pas pu jouer. Et puis là, on redémarre, et les gens n'ont pas demandé de remboursement, donc sont encore là. Donc j'ai un public qui est à la fois fidèle, qui commande vraiment en avance, en masse, et qui en plus est là, quoi qu'il arrive.
Et quasiment tout est complet. On va entendre un extrait, vous raconter les trois premiers confinements, et je précise que tout est vrai.
Premier confinement, pas de masque, pas de test. La Chine construit un hôpital de 1000 lits en 10 jours. Nous, on regarde des tutos sur Internet pour fabriquer des masques avec nos slips. On n'est vraiment pas. Hein. Deuxième confinement, pas de lit, pas de place en réa, pas de respirateur. Là, Olivier Véran a quand même dit OK pour qu'on équipe les salles de réanimation avec des masques de plongée Décathlon. Et enfin, troisième confinement, là, Macron, il a pété un câble. D'ailleurs, il a réuni tout le monde, Macron, il a réuni tout le monde, comme ça, il a gueulé. Maintenant, ça suffit. Dehors, les Français meurent. Et en tant qu'élus du peuple, nous devons apporter des réponses et des solutions à la hauteur de la tâche qui nous incombe. Appelez McFly et Carlito.
Mais c'est pas une blague, c'est la dernière fois que le président de la République a répondu à des questions contradictoires, c'était avec McFly et Carlito.
C'est ça qui est... Donc, si vous avez un politicien, si vous avez un gouvernement qui va bien, qui vous a pas infantilisé, tapé dessus, etc., ça pourrait presque être une, entre guillemets, hein, pourquoi pas une bonne idée. On pourrait se dire, bon, bah, tiens, il essaye de se rapprocher. Mais en fait, le problème, c'est que comme vous avez quelqu'un qui vous a... quand je dis quelqu'un, c'est pas spécifiquement Emmanuel Macron, c'est ce gouvernement de manière générale que je trouve personnellement qu'ils nous ont totalement infantilisés, qu'ils nous ont menti, etc., etc. Clore par une chanson avec McFly et Carlito, j'ai absolument rien contre McFly et Carlito, mais c'est juste que vous nous prenez vraiment pour des débiles, quoi. C'est-à-dire que...
J'en parlerai pas si c'était pas votre sujet. Vous êtes vacciné?
Je peux pas en parler parce que en fait, j'en parle dans le spectacle. C'est-à-dire que je réponds à cette question dans le spectacle et c'est un moment vraiment important dans le spectacle. Si vous revenez voir, Philippe, la partie mise à jour de ce spectacle, parce que du coup, avec le Covid, j'ai réécrit pas mal de choses.
Moi, ce que j'en ai vu, parce que je le connaissais, voilà. Mais il y a plein de nouveautés, évidemment.
Évidemment, parce que du coup, j'ai dû rajouter du texte sur le Covid, autour du Covid. C'était pas possible de pas en parler. Et la vaccination et ma propre vaccination et mon avis sur le vaccin, c'est un vrai pan du spectacle qui dure 15 minutes. Donc si je vous réponds, je spoil un peu mon spectacle.
Ne le spoilez pas, ça va donner envie aux gens d'aller le voir, mais il y a déjà trop de gens qui ont envie d'aller le voir. Vous faisiez quoi avant? Parce que en fait, ce spectacle est également né de vos névroses, de certaines addictions, qui elles-mêmes sont nées de vos talents, mais aussi de votre enfance. Ça tombe très bien, le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez avec notre invité Jérémy Ferrari. C'est juste après ça dans Culture Média.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de l'humoriste Jérémy Ferrari. On parle de son spectacle Anesthésie Générale. On va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant la célébrité, donc avant la fame. Bonjour Lisa Marie.
Bonjour Philippe, bonjour Jérémy Ferrari.
Bonjour Lisa Marie.
Vous êtes le champion de l'humour noir et sans filtre. Vous remplissez les salles de spectacle depuis 10 ans. Vous êtes l'un des humoristes les plus vus de France. Plus 300 000 spectateurs se sont déplacés pour votre précédent spectacle Vent de pièces à Beyrouth. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre.
Ça va donner de l'espoir aux gens.
Ouais.
Jérémy Ferrari, vous êtes né à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, et vous avez grandi dans le quartier de Manchester. Il ne faut pas le dire avec l'accent,
non,
Lisa.
Non.
Manchester.
Mais si vous vous arrêtez à Manchester, vous allez bien voir que vous n'êtes
pas.
C'est pas l'accent.
Non, c'est pas Manchester. Manchester.
C'est Manchester.
Ouais.
Un quartier populaire où vos parents tiennent alors une supérette. Cette supérette, vous y passez du temps, et vos parents vous expliquent les choses un peu choquantes que vous voyez avec humour, une sorte de faculté à rire du pire qu'ils vous transmettent dès votre plus jeune âge.
Il se passait quoi dans la supérette?
C'est-à-dire que, comme je dis souvent, parce que j'aime pas stigmatiser les quartiers, parce qu'en plus, j'ai grandi dans un quartier, donc je suis bien placé pour savoir. J'aime bien quand même le rappeler, il y a un peu tout dans les quartiers. Hein, vous voyez, il n'y a pas que de la misère et de la drogue et des bagarres. Hein, il y a aussi des gens qui s'en sortent, des gens bien, de la solidarité, il y a plein de choses belles. Mais c'est vrai que quand tu vois, moi j'ai vu ça, quand je me rappelle d'une fois où j'étais petit, j'avais, je sais pas, 8 ans, et il y a une dame qui arrivait tous les matins, qui a des gros problèmes d'alcool, et je me rappelle d'un matin, elle arrive, il est, je sais pas, 8-9 heures, et moi je suis là, j'ai 8-10 ans, et en fait elle se penche pour prendre du rosé très bas de gamme qui a tout en bas, comme ça, du rayon, et en fait elle s'est cassé la gueule dans les bouteilles, donc elle s'est blessée et tout, et donc moi je suis là, j'ai 8-9 ans, et je dis à ma mère, mais qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle se met dans cet état, pourquoi elle boit autant? Et ma mère, qu'est-ce que vous voulez répondre à un enfant de 8-9 ans? Donc ma mère utilisait tout le temps l'humour, elle m'a dit, bah t'as vu la gueule qu'elle a, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse d'autre? Donc,
wow.
C'était que des trucs comme ça, c'est-à-dire que en fait, mes parents, et même de manière générale, ma famille, vous savez, dans ces endroits où la vie, elle n'est pas forcément simple, l'humour, c'est extrêmement exutoire. Et donc, il y a des situations, il n'y a que l'humour comme réponse.
La politesse du désespoir, dit-on.
La politesse du désespoir.
Jérémy Ferrari, vous êtes enfant unique, alors vos parents vous inscrivent à pas mal d'activités pour que vous soyez entouré d'autres enfants. Vous vous essayez au judo, à l'équitation, à la musique. À l'école, vous n'êtes pas un enfant modèle, vous n'aimez pas trop l'autorité et vous dormez souvent au fond de la classe. Vous êtes assez têtu, notamment avec les devoirs. Par exemple, quand vous apprenez les tables de multiplication, 3 fois 2, pour vous, ça fait pas 6, mais ça fait 5.
Mais non.
C'est-à-dire qu'en fait, ma mère m'apprenait les tables de multiplication, enfin essayait, tant bien que mal. Et à un moment donné, en fait, j'ai eu un rejet de toute forme d'apprentissage. C'est-à-dire, je disais, mais prouve-moi que 3 fois 2, ça fait 6. Si moi, je dis que ça fait 5, qu'est-ce qui fait que toi, tu as plus raison que moi?
Aussi, vous êtes tous sauf un enfant crédule. Hein. Vous aimez comprendre les choses. Quand vous perdez vos dents et que la petite souris vous glisse une pièce sous l'oreiller, ça vous intrigue. Alors, pour vérifier, vous placez des billes devant la porte et qui s'est pris les pieds dedans?
J'ai pas mis que des billes.
Oh non,
j'ai complètement piégé la pièce.
Jaloux.
En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis. Je savais que la petite souris n'existait pas, donc mes parents continuaient de vouloir me mentir. J'ai dit, j'arriverai un jour à prouver que c'est pas vrai. Donc j'ai mis des billes par terre, j'ai mis des nounours quand même, parce que c'est quand même ma mère. Je voulais quand même pas qu'elle se tue. Donc j'ai mis des nounours quand même, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez gentil. Et j'avais un punching ball. J'ai pris mes ceintures de judo, j'ai fait une espèce de barrière comme ça avec mes ceintures de judo. Donc d'un côté, il y avait punching ball, de l'autre côté il y avait un gros pot avec des boules de pétanque, donc je voulais être bien sûr d'être réveillé, et donc le piège a fonctionné, j'ai mis ma dent sous l'oreiller, et puis à 2h du matin, j'ai entendu ma mère tomber, j'ai allumé la lampe, elle était par terre dans les nounours, avec un billet de, ou une pièce, je sais pas, et j'ai dit, tu vois que c'est toi la petite souris.
Et depuis vous êtes en psychothérapie.
Et ma mère à l'hôpital.
Au collège, vous intégrez l'option théâtre, et là vous découvrez une discipline dans laquelle vous vous sentez vraiment bien, vous avez une excellente mémoire, vous retenez facilement votre texte, mais aussi celui des autres. Vous allez ensuite suivre des cours au théâtre de Charleville-Mézières et vous faites la rencontre d'un professeur qui va beaucoup compter, Bruno Dion.
Il y a Michael Dion, qui est mon meilleur ami.
Il y a Céline Dion
et Bruno Dion.
Bruno
trois
Dion.
Personnes très importantes dans ma vie.
Il vous aide à monter votre premier one-man show. Vous avez alors 16 ans et demi et vous jouez dans le grand théâtre devant 500 personnes, des sketchs que vous avez écrits et d'autres célèbres que vous reprenez. Vous appelez le spectacle de sketch en sketch. Les journaux parlent de vous et nous, on a retrouvé un extrait de ce premier spectacle. Non. Tendez bien l'oreille.
Je vous annonce que vous allez vous envoyer pendant 1h30 de la flûte de vent. Ça fait chier, pourtant. Ça fait plaisir. Bon, sinon, plus sérieusement, j'aimerais tous vous remercier d'être là ce soir. Il y a tous mes amis, ils sont trois. Là, j'attendais une réaction de votre part. Il y a toute ma famille, ils sont à peu près 1500 et des...
Attendez, cet accent que j'ai réussi quand même à gommer maintenant.
Moi, je ne l'entends pas, vous l'entendez, il ne l'entend pas, mais moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a un paquet d'humoristes qui aimeraient déjà avoir des rires comme ça.
À 16 ans,
ouais,
il
marre, c'est hein, chouette, franchement, bravo. Très chouette.
Peu après, votre prof de théâtre, Bruno Nion, convainc vos parents de vous laisser partir à Paris. Vous avez alors 17 ans et vous faites un pacte avec eux. Si vous réussissez à être admis au cours Florent, vous arrêtez le lycée et vous êtes reçu en jouant un sketch de Pierre Palmade. Vous n'êtes pas encore majeur, mais vous obtenez une dérogation et vous commencez les cours. La deuxième année, vous êtes un peu déçu parce que vous sentez que l'humour est vu comme un sous-art. Et puis ensuite, Jérémy Ferrari, vous vous lancez à la conquête des scènes parisiennes. Commencent alors des années un peu galères. Vous travaillez la journée et le soir, vous montez sur scène. Vous faites des petits boulots, groom habillé comme Spirou.
Oh non.
Voiturier, déménageur, vendeur. Vous faites aussi la sécurité dans les stades ou les parkings. Là, parfois, vous faites des rencontres étranges. Un soir, un homme tout seul vient vous parler à 5h du matin pour vous poser des questions quand vous faites la sécurité.
Alors, j'étais en face d'un parking. Je gardais un parking de Truffaut parce que parfois, les parkings étaient réquisitionnés quand il y avait des gros événements.
Truffaut, c'est les plantes.
Ouais. Et j'étais devant le parking de Truffaut. Et en fait, les moments les plus en sécurité, les moments les plus compliqués, c'est pas forcément la nuit. Des fois, c'est aussi très tôt le matin. Parce que c'est les gars qui sortent, qui rentrent chez eux après la boîte de nuit, y compris des trucs et tout, quand c'est pas que de l'alcool. Hein. Et donc, je me rappelle d'un mec qui est arrivé à cette barrière de Truffaut où je gardais, un mec qui est arrivé en slip à 5h du matin, et qui est arrivé de je ne sais où, qui est arrivé d'une espèce de colline ou je sais pas trop quoi, qui est sorti comme un petit fourré en slip, ouais. Et qui est venu se poser à côté de moi pour me demander des détails sur pourquoi. Ah non, il avait son slip. Pourquoi est-ce qu'on avait réquisitionné le parking de Truffaut ? Il voulait vraiment des détails très technique, alors qu'il avait, non seulement il n'avait pas de bagnole, mais il n'avait même pas de pantalon. Et il voulait des détails très techniques, et vraiment une explication.
Vous voulez demander,
j'en ai aucune idée.
Une année, vous partez pour la première fois à Avignon. Vous dormez sur le parquet d'un minuscule studio de 12 mètres carrés en coloc avec un autre artiste. Vous êtes payé pour distribuer des flyers. Et lorsque vous vous retrouvez à court de flyers, vous distribuez des affiches de votre propre spectacle.
Pas mal.
Jérémy Ferrari.
Dans une brouette.
Dans une brouette.
C'est ça qu'il faut préciser. C'est parce que les affiches, c'est très très lourd quand vous en avez 500 ou 1000. Et donc, je les promenais en brouette. J'avais des brouettes.
Ça fait des bras.
Ouais, ça fait des bras.
Jérémy Ferrari, durant cette période-là, vous faites souvent face à des refus dans des festivals parce que votre humour n'est pas populaire. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. En fait, on passe beaucoup de temps à vous dire que ça ne marchera pas, mais vous y croyez. Le bout du tunnel, c'est l'année 2010. Vous intégrez l'émission d'humour de Laurent Ruquier, on ne demande qu'à en rire. Vous devenez très vite un pilier et contrairement à ce qu'on vous avait dit, votre humour grinçant plaît. Avec vous, Jérémy Ferrari, tout est permis. Vous osez ce que personne n'ose et vous réussissez à faire rire, même avec les sujets les plus graves. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là.
Merci.
Merci Lisa-Marie Marquez.
Merci beaucoup.
Incroyable.
Très joli portrait.
Ouais. Maintenant que je sais que vous avez été groom en Spirou, plus garde du corps,
ça, c'était
plus toutes ces choses.
Le groom, je me rappelle d'une fois, parce qu'il m'envoyait faire des missions. Alors, des fois, c'était voiturier, des fois, c'était d'autres trucs. Je me rappelle qu'un jour, je devais livrer des surgelés dans une bagnole. Je devais aller voir des journalistes avec. C'était une grande marque de poêle qui sortait une nouvelle poêle. Et donc, je devais apporter une poêle avec des trucs surgelés. Donc, genre des légumes surgelés. Et donc, j'avais une bagnole qui n'était absolument pas climatisée avec plein de poêles et de sacs de trucs surgelés. Et je me rappelle qu'un jour. Je passe devant un espèce de collège, ouais, une espèce de collège, et donc c'était la sortie des classes, et donc il y a plein de gamins comme ça qui sont, et ils me voient en gros, mais ils se mettent à se foutre de ma gueule, et je suis à deux doigts de vouloir me défendre, et je me vois dans les vitres d'une voiture, je me dis non, je peux rien dire, ils ont tellement raison de se foutre de ma gueule.
Merci Lisa-Marie Marquez, vous restez avec nous, Jérémy Ferrari, Culture Média continue.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média,
Philippe Vandel.
En compagnie de Jérémy Ferrari, anesthésie générale, spectacle très personnel. Quand j'ai dit quelle date faut-il annoncer, on m'a dit c'est même pas la peine d'annoncer date, c'est quasiment complet partout, sauf que quelques-unes restaient avec nous à 11h. Je vais dire les endroits, les villes où il y a encore des places. Spectacle très personnel, Jérémy Ferrari, très intime, dans lequel vous parlez de vous, faites des confidences assez terribles. Vous révélez avoir été victime de l'alcoolisme, mais pas qu'un peu. Vous étiez victime de ce que les spécialistes appellent l'alcool noir. C'est quoi l'alcool noir ?
Bah, c'est une vulgarisation, en fait. Disons que vous avez plusieurs types d'alcoolisme entre guillemets, alors après vous avez des
mais moi je savais même pas qu'il y avait des couleurs comme pour les pistes de ski. C'est quoi l'alcool noir par
c'est
rapport à l'alcool vert?
C'est la même chose que la piste de ski.
Alors ça se manifestait comment chez vous?
C'est-à-dire que l'alcool noir, ça veut dire que vous avez une propension à augmenter les doses de manière extrêmement forte. La plupart des gens qui sont atteints d'alcool noir, même si encore une fois c'est pas un mot scientifique, hein, c'est plutôt une vulgarisation du terme, c'est les gens qui meurent généralement très tôt de l'alcool, parce que généralement on fait des comas éthyliques, etc., etc. C'est-à-dire que c'est des gens qui, moi par exemple, je suis arrivé à 6 litres de vin par jour extrêmement rapidement. C'est-à-dire que j'ai toujours bu plus que tout le monde.
En commençant à quelle heure ?
En commençant dès que je me levais. Hein. En fait, c'est ça le truc de l'alcool noir, c'est que c'est les gens, en fait, vous ne pouvez pas vous arrêter de boire jusqu'à ce que vous tombiez, en fait. Et donc, vous avez des alcooliques, si vous voulez, qui vont consommer, par exemple, si on prend du vin, ils vont prendre 2 litres de vin par jour ou 3 litres de vin par jour. Ils vont avoir une consommation constante. Et puis, les alcooliques un peu sévères comme ça, comme moi, je suis, on monte les doses, on ne sait pas les arrêter.
D'où, j'en parle, parce que vous en parlez dans le spectacle, sinon je ne me permettrai pas, d'où votre tentative de suicide, alors que tout allait très très bien pour vous. Alors, vous étiez au sommet de la gloire, si je veux dire, les salles étaient pleines.
Oui, alors effectivement au moment à ce moment-là, alors c'est disons que c'est pas Il y a tout un tas de trucs. C'est-à-dire que quand je fais ma cure de désintoxication, ça faisait très longtemps, depuis petit, que je sentais qu'il y a des choses qui n'allaient pas dans ma tête. J'avais énormément de troubles multiples et divers dans ma tête. Et les psychiatres ne savaient pas, enfin les psychologues, les psychanalystes que j'avais vus, ne savaient pas vraiment déceler ce qui m'arrivait. Quand finalement, je continue à perdre ma joie de vivre malgré le succès, et qu'il y a un peu plus de 5 ans maintenant, je fais une tentative de suicide, là, je me retrouve pris dans des urgences psychiatriques, etc. Et puis là, je vais finir en cure de désintoxication. Et là, on va me lister une liste de maladies. Donc on m'explique que j'ai un trouble de l'attention avec hyperactivité, que je suis au potentiel, que je suis obsessionnel compulsif, obsessionnel idéatif. Donc voilà, on me fait une liste en fait de problématiques que j'ai, et on me fait un tableau psychiatrique. Et une fois que j'ai ce tableau psychiatrique et des réponses, là je commence à trouver la force de m'en sortir. Parce que ce qui était difficile, c'était évidemment d'avoir ces troubles, mais c'était surtout de se sentir totalement incompris. Quand vous n'avez pas une maladie psychiatrique très connue et très réputée, comme la bipolarité ou la schizophrénie, si vous voulez, ben, vous avez souvent ce qu'on appelle une errance diagnostique, c'est-à-dire que vous mélangez plusieurs troubles et personne ne sait vraiment dire ce que vous avez de manière concrète. Et donc, c'est très difficile de vous aider.
Vous savez quoi ? J'ai l'impression que c'était l'enfer que vous avez vécu. Vous allez comprendre l'enchaînement. Caroline Speller, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour Gérard.
Caroline, aujourd'hui, vous nous proposez une BD coréenne qui sort en même temps qu'une série. Ou plutôt qui sort en même temps en série.
Oui, et je vais vous parler de Hellbound, de l'auteur Yang Sang-ho, que vous connaissez peut-être en tant que réalisateur du film Dernier train pour Busan. Ce film de zombies avait fait sensation en 2016 au Festival de Cannes et a été même comparé au maître du genre, George Romero lui-même. Hellbound, c'est d'abord un manoir, une BD coréenne, et ensuite une adaptation en série de 6 épisodes sur Netflix, réalisée par l'auteur lui-même. Les deux sont disponibles en même temps en France.
Et alors, ça parle de quoi ? C'est une nouvelle histoire de zombies ?
Alors non, pas cette fois-ci, pas de zombies. Hein. Mais on est bien dans un thriller fantastique. Et le titre pose le cadre direct. Il signifie « lié, contraint à l'enfer ». Des gens voient apparaître une forme étrange qui les avertit qu'ils vont mourir à une date annoncée. Comme ça.
Jérémy Ferrari, on rigole, on est dans l'alcool noir, là, on est dans le zombie très sombre.
Il n'y a pas ce machin qui est venu me voir.
Non, bah, si vous voulez, je vais vous le faire passer. Allez. Alors, dès les premières pages ou minutes de la série, on rentre dans le vif du sujet. On se retrouve à Séoul, dans un café. Un homme en sueur regarde l'heure sur son téléphone. 3 créatures infernales surgissent, lynchent violemment cet homme pour ne laisser qu'un corps calciné. Tous les téléphones à ce moment-là filment, les réseaux sociaux s'affolent. Évidemment, la police arrive sur les lieux pour enquêter et recoupe ce crime à d'autres affaires survenues dans d'autres pays. Des cas signalés depuis quelques années par un groupe religieux appelé Neo Veritas ou la Nouvelle Vérité.
D'après la Nouvelle Vérité, c'est pour mettre en garde toute la population. C'est étrange de mener une enquête sur un acte de Dieu.
Alors selon eux, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est une punition de Dieu.
Alors, selon la Nouvelle Vérité, cette punition de Dieu condamne à l'enfer les hommes coupables de péchés comme le meurtre, le vol ou l'escroquerie. Comme si la justice des hommes n'était plus suffisante et que l'homme devait être remis sur le droit chemin.
Nous avons oublié les remords, la honte, la repentance et aussi l'idée de la rédemption. Dieu a trouvé un moyen de nous montrer à quoi ressemble l'enfer. Il nous dit que nous devons être plus vertueux.
Et quand une damnation ou une exécution est diffusée en direct par tous les médias, le monde tombe dans l'hystérie collective, le chaos. La peur gouverne l'homme et incite les gens même à se surveiller et à se dénoncer. Et même certains fanatiques se chargent eux-mêmes de punir quiconque oserait s'opposer à la volonté de Dieu.
On n'est pas dans un spectacle de Jérémy Ferrari, en fait, j'ai l'impression que l'enfer sont les hommes.
Totalement, Philippe. Avec Hellbound, voilà. L'auteur illustre des problèmes de notre société. Il nous confronte et nous pousse à réfléchir sur ce que c'est la justice, le fanatisme, l'influence des réseaux sociaux, le voyeurisme ou encore le libre arbitre. Pardon. Ouais. En fait, ce qui fait le plus peur, ce ne sont pas les monstres de l'enfer, Philippe, mais bien les hommes eux-mêmes.
Évidemment. Alors là, on a entendu le son de la série. Oui. On a en main la BD, vous nous conseillez plus la série ou la BD ?
Alors les deux, Philippe, surtout qu'ils sont identiques à quelques détails près. Il y a un personnage qui est masculin et qui devient féminin. Le premier tome du manhwa édité chez Keybooks, pour qui j'ai une petite préférence tout de même, couvre les 3 premiers épisodes de la série. Il est servi par un dessin qui colle parfaitement aux séries et qui est finalement plus psychologique que action. Mais attention, ça reste tout de même assez violent, donc à ne pas mettre entre toutes les mains. Mais que ce soit sur papier ou sur écran, Hellbound ne vous laissera pas indifférent, ça je vous le garantis.
Sans, sans doute. C'est comment, Jérémy, vous êtes en train de feuilleter? C'est fort les images?
Ouais, après c'est vrai, ça fait... C'est, moi je connais pas, je connais plus le cinéma coréen. Enfin, les Coréens sont très très forts de manière générale. Hein. Je trouve que dans le cinéma coréen, enfin, on en entend de plus en plus parler. Avant c'était un peu élitiste et là ça devient de plus en plus populaire, à juste titre.
Ouais. Et en musique, ils font la K-pop, c'est pas mal aussi. Hein.
Ouais, moi, j'aime beaucoup la K-pop.
Ils sont très bons de manière générale.
Merci. On marque une courte pause. On va justement parler de musique. C'était la voix de Stéphanie Loire que vous avez entendue. On va mieux l'entendre. Elle a trois nouveautés. À tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Blandel.
Anesthésie Générale, ce n'est pas lui qui est anesthésié, c'est Jérémy Ferrari, c'est le nom de son nouveau spectacle. Folies Bergères sera du 13 au 24 avril 2022, puis une tournée des Zéniths, déjà 120 000 billets vendus en précommande. Vous écoutez quoi comme musique en ce moment?
En ce moment, je ne suis pas très original, hein, j'écoute Orelsan, parce que le dernier album est encore extrêmement, extrêmement bon. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui, dans les textes, je me sens assez proche de, son, de ses mots, de son flow. Enfin, je trouve que c'est je trouve que actuellement il y a, c'est difficile de trouver mieux en rap, quoi.
Et Stéphanie Loire, vous avez aimé l'album?
Bonjour.
Bonjour, on s'est déjà dit bonjour quatre fois, mais je veux bien le refaire.
Ça réfléchit.
Je suis urbain.
L'album d'Orelsan, il est excellent. L'odeur de l'essence est au vitriol. Ouais, tout le monde en prend pour son grade, mais c'est génial.
Voilà. Et puis pendant la pause pub, avec l'immense délicatesse qui caractérise Stéphanie Loire, on vient de raconter au problème d'alcool et elle lui a conseillé le titre Dernier Verre. Je me suis dit, franchement, si ça, c'est pas la classe, si ça, c'est pas de l'accueil d'invité, franchement.
Je n'avais pas fait le rapprochement, en effet. Pardon.
Mais évidemment, plaisante. Stéphanie, ce matin, vous allez nous parler d'électro et d'un rocker qui s'est assagi.
Ouais, je commence par l'électro parce que pour avoir le teint frais, il faut se faire un petit shot d'électro tous les matins.
Ouais, bien sûr.
C'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de la Santé. Alors, je commence avec le producteur français Kavinsky qui a rencontré un succès colossal avec ce tube-là, Night Call, sur la divine bande originale du film Drive qui était sorti en 2011 avec Ryan Gosling au volant. C'était très cool, ça.
Ouais.
Après son excellent album Outrun, Kavinsky prépare un deuxième album enfin qui devrait être publié dans les mois à venir et nous présente déjà un premier single extrait de ce projet, une petite mini-hardise qui s'appelle Renegade. Alors c'est un titre à l'ambiance sombre, mais il y a toujours une lueur d'espoir malgré tout chez Kavinsky, et qui donne envie d'onduler son corps à s'en déboîter la L1 et la L5.
C'est quoi, c'est des vertèbres?
C'est des bandes d'ostéo, ça.
Ouais, vraiment. Ouais, c'est des lombaires, on me dit. Merci beaucoup, Bastien Cosnéo,
mort de rire derrière.
Comment? Ouais.
La 5.
J'ai une petite hernie, ouais, je ça, sais de quoi je parle.
Ça sent le vécu, Stéphanie.
Renegade a été enregistré au Mythic Studio Moteur Basse à Paris en collaboration avec Victor Lemann. Alors Victor Lemann, c'est la moitié du duo Housse de Raquette, et Gaspard Auger, la moitié du duo Justice. Donc il y a du lourd, et il est porté par la voix du prodige du R&B, Cassius Clay.
Alors on va rester avec vous dans la bulle électro, mais du côté rock, avec un clip qui a été censuré.
Oui, un clip qui a été censuré par YouTube, mais qui ne l'est pas par Pornhub, celui du groupe français La Femme.
Il va falloir aller écouter la musique sur les sites de cul, jamais s'en sortir de ce monde. On n'en peut plus. Hein.
C'est le groupe français La Femme qui a sorti en avril dernier un troisième album qui s'appelle Paradigme, et qui s'est lancé un défi, celui de réaliser 16 clips pour chacun des titres de cet album qui, mis tabou, formeront leur premier long métrage. Ils viennent de publier la vidéo du très sensuel Divine Créature, qui met en scène le couple star du porno fait maison. Je ne sais pas si vous connaissez Léo Lulu.
Non, ils existent.
Alors en général, tout le monde dit non, je ne connais pas.
Ah, pour le coup, vraiment, je connais.
Non, pour le coup, vraiment, je connais pas.
Le porno maison, c'est comme les cookies maison, c'est un peu un supplément d'âme. Voilà. les paroles.
C'est compliqué d'avancer en disant le star du le couple star, et on s'aperçoit qu'en fait, c'est que nous qui connaissons.
Les paroles sont crues et les images, en revanche, débordantes d'érotisme. Voilà ce que donne le titre.
Divine créature, quand tu me touches, je deviens si docile. Divine créature, je deviens tant à toi.
on y voit deux corps qui s'enlacent et qui apparaissent en lumière néon. Voilà, pour les curieux, si vous voulez aller vous balader un petit peu sur Internet.
Et puis enfin, un spécial dédicace prime à l'élégance. Elle m'a écrit cette relance, Stéphanie Loire. Enfin, il est question d'un rocker qui a mis de l'eau dans son vin.
Oui, excusez-moi pour ce jeu de mots. J'ai dit vous employer la bonne formule, car en effet, Pete Doherty, leader du groupe de punk britannique Libertines, en a bu pas mal, et pas que d'ailleurs. Il s'est, paraît-il, calmé depuis qu'il vit en Normandie avec son épouse, qui est française. Pour vous rafraîchir la mémoire, les Libertines, c'est ça. L'enfant terrible du rock british aux éternels cheveux gras lâche les guitares électriques et s'associe au réalisateur et musicien Frédéric Lowe, l'homme qui est derrière les albums de Stéphane Escher, Alex Baupin entre autres, pour signer un morceau nostalgique qui nous emmène tout droit sur les plages d'Étretat. Un titre qui suit la trace du célèbre gentleman cambrioleur Arsène Lupin, jusque dans son clip tourné à Étretat, lieu ô combien symbolique pour le héros de Maurice Leblanc.
Merci,
il s'est calmé,
beaucoup.
Hein.
Oui, vraiment, il s'est calmé.
Il s'est calmé.
Il s'est calmé.
On sent plus Stéphane Escher que...
Ouais.
C'est vrai.
Effectivement. Et Frédéric Lowe qui avait réalisé le magnifique album de Daniel Darc. Merci beaucoup, Stéphanie Loire.
Merci.
Il y a un jeu qui arrive, il s'appelle État d'urgence. Il est lui aussi signé Jérémy Ferry. Et il y a même... un additif au jeu, mais comment est-ce possible? Comment fait ce garçon pour réaliser tout ça? Il va nous répondre à tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Jérémy Ferrari, anesthésiste général, c'est son nouveau spectacle. Vous serez demain quelque part?
À 3.
Demain à 3. Il y a le spectacle, il y aura une tournée des Zéniths, il y aura les Folies Bergères à Paris, mais il y a également ce jeu de société, État d'urgence. Le principe est simple, c'est publié par Michel Lafon. Gérer une épidémie sans aucune compétence, tout en gardant la confiance du peuple. Ça rappelle plein de gens dans plein de pays. Il n'y a pas que la France. Expliquez le principe du jeu.
Le principe, il est très très simple. En fait, vous représentez 5 entités. Alors, il y a les cartes, il y a le conseil scientifique. Parce que des fois, j'en oublie.
Il y a les médias. Voilà, les médias. Il y a le team laboratoire. Voilà. Il y a le conseil scientifique, vous l'avez dit. Il y a le team gouvernement et le team des complotistes. Voilà. Bien des têtes de méchants.
Voilà. Donc, en fait, vous représentez, tu choisis ton équipe au départ de la partie. Tu as 20 points de confiance. Donc, c'est la confiance du peuple. Et grâce à des cartes, donc tu as un espèce de grand marché de cartes avec plein d'effets différents sur les cartes. C'est un deck building. Hein, c'est ça. C'est comme ça qu'on dit. Et en fait, bah, tu vas acheter des cartes de plus en plus fortes et essayer de manière stratégique, tu vas essayer de faire perdre les points de confiance de tes adversaires et toi, soit de les faire augmenter, soit au moins de les conserver.
Tous les cas, évidemment, sont vrais. C'est dessiné, c'est illustré. On voit des Américains qui volent des masses sur le tarmac des aéroports. Ça va m'arriver. Il y a les soirées clandestines. Il y a la carte Jean-Marie Bigard. Elle rapporte quoi?
La carte s'appelle Compagnon gênant. C'est plutôt un handicap dans le jeu.
La carte
Didier Raoult. Merci, c'est gentil.
Marc-Antoine Lebray. La carte Didier Raoult, elle rapporte ou elle fait perdre des points?
Ça dépend quelle carte, parce qu'il y en a plusieurs.
Ouais. Alors, il y a plusieurs équipes. Il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé. Dans la carte Team Média, il y a Pascal Praud de CNews, Edwy Plenel de Mediapart et Jean-Jacques Bourdin de BFM TV. Pourquoi il n'y a pas les grands médias? Pour vous, les médias maintenant, c'est des médias plutôt à la marge. Pourquoi il n'y a pas France 2, TF1 et Le Monde?
Il n'y a, pas vraiment cette réflexion, d'autant que maintenant les médias sont possédés par des groupes. Donc quelque part, c'est plutôt des groupes qu'on peut viser plutôt que des chaînes. Et non, là vraiment, c'est un hasard total. En vrai, on a pris des gens, on a fait plein de caricatures, on a pris celles qui étaient les plus marrantes. Hein.
Ouais, et alors là où c'est complètement dingue, c'est qu'il y a ce jeu, mais il y a aussi un additif au jeu, puisqu'entre temps, il y a eu le pass sanitaire. Donc on peut acheter une petite extension à 5,95, c'est l'extension passe sanitaire. Alors racontez ce qu'on
parce
y trouve.
En fait, ce qui se passe, ce qu'il y a un truc important à préciser, c'est que toutes les cartes représentent des faits d'actualité, des propos, tout est lié à ce qu'on a vécu pendant le Covid pendant un an et demi. Donc, c'est vraiment que des cartes qui sont basées sur des faits d'actualité et illustrées par des dessins humoristiques. Quand on a eu fini de fabriquer le jeu, donc il est parti en fabrication, et donc de là, on nous a sorti le passe sanitaire. Et je dis, on ne peut pas ne pas avoir un jeu sur le Covid et pas avoir parlé du passe sanitaire. Donc, on a dû créer une extension qui rajoute non seulement des cartes humoristiques sur le sujet du pass sanitaire, mais aussi une nouvelle manière de jouer. Donc, c'est-à-dire que quand vous rajoutez ces cartes-là aux cartes initiales du jeu, vous avez en fait, vous devez vous dépêcher de prendre vos rendez-vous pour avoir votre vaccin. Et à un moment donné, dans le jeu, on va demander à vérifier les passes sanitaires. Si vous ne l'avez pas, vous devez porter un masque pour le reste de la partie et vous devez payer pour continuer à jouer la partie.
Je vous interromps parce qu'il est 10h54 et c'est l'heure des stories de Marc-Antoine Lebray. Chaque jour, Jérémy Ferrari, il y a des stars qui viennent pour notre invité. Aujourd'hui, c'est celui qui vous a révélé au public. Il est ici. Je vais évidemment parler de Laurent Ruquier. Bonjour Laurent.
Bonjour à tous. Bienvenue dans On Demande Qu'à en Rire.
Voilà. Aujourd'hui, bon, c'est une émission spéciale car on n'est pas là pour rire, mais pour rendre hommage à Jérémy Ferrari. Car comme vous le savez tous, à part Jérémy, Jérémy nous a quittés. Et comme le veut la tradition, Fabrice Eboué, qu'est-ce qu'on fait ?
Bon, on fait une minute de silence en passant un sketch de Patrick Bosso. Bon, en tout cas, c'est con pour Jérémy, quoi. Bah, l'accident bête, quoi. À ce qui paraît, c'était au Zénith, et le mec a sauté dans le public pour faire comme les rockstars, mais il a oublié que c'était les répètes, quoi. Bah, demandez à Stéphane Guillon, ça fout les boules.
Ça fout les boules, surtout pour les spectateurs qui avaient acheté leur place. Je passe la parole à Gilbert Montagnier, qui voulait dire quelques mots.
Coucou tout le monde. Moi, je suis ici pour deux raisons. Déjà, pour l'hommage à Jérémy Ferrari, et puis aussi parce que je me suis trompé, que je croyais que j'étais chez Auchan. Voilà. Donc, désolé encore d'avoir fouillé dans le cercueil. Comme c'était tout froid, je cherchais des Häagen-Dazs et des pommes noisettes. Bon. En plus, moi, je l'aimais beaucoup, Jérémy Ferrari, hein. Très proche des handicapés. Ah, c'est qui là, Manuel Valls, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est vrai que Jérémy a beaucoup fait pour le handicap. Par exemple, après avoir parlé avec lui, j'ai bégayé pendant 6 mois et j'ai même eu le syndrome de la Tourette, car chaque fois que j'y repensais, je criais « Enculé de bordel de merde !»
C'est qui là, deux petits chauves avec la pourridée ? Désolé, je vous connais pas les gars.
Ah, c'est parce que c'est pas mon visage, Gilbert.
Oh non.
C'est ainsi que se termine cet hommage poignant. Mais si vous voulez continuer à honorer Jérémy Ferrari, dépêchez-vous d'acheter des places pour son nouveau spectacle. Car quand je vous disais qu'il nous avait quittés, c'est juste qu'il avait quitté Paris pour commencer sa tournée dans les régions.
Merci beaucoup Laurent Ruquier, merci Marc-Antoine, parce qu'on dit ça. La tournée, il reste quelques places. La Bressuire, ça sera le 5 février encore. Gap le 4 mars, Carcassonne le 8 mars. Châteauneuf-sur-Isère le 6 avril, on n'a rien de mieux, de plus récent, de plus proche. Folie Bergère Paris du 13 au 14 avril et ensuite la tournée des Zéniths, ce sera en septembre. Merci,
merci
beaucoup Jérémy Ferrari d'être venu nous voir. Merci à tous, nous on va se retrouver demain à 9h pour Culture Média. Évidemment, nous sommes avec la comédienne Victoria Abril, on va parler de la mini-série d'M6 Sauver Lisa. Et puis illustratrice, autrice de bande dessinée, Catherine Meurice, pour sa nouvelle bande dessinée magnifique, La jeune femme et la mère, très beau titre également. Juste après le flash, vous allez retrouver Julia Vignali et Mélanie Gomez avec Bien fait pour vous, le programme du jour.
Alors, on va se poser la question, Philippe, de savoir si on peut aimer plusieurs personnes à la fois. On va parler du polyamour. Voilà.
Et ça va super bien s'enchaîner avec notre dossier santé, puisqu'on va parler de fertilité. Je suis massive, voilà. Comment maximiser ses chances de concevoir un petit bébé, qu'on soit un homme ou une femme ? Est-ce qu'il y a des moyens de booster sa fertilité ? Eh bien, on fera le point.
Voilà, encore un très très beau camoulox.
Donc, ça va parler un peu de cul aujourd'hui, c'est ça, hein ?
D'accord aussi.
Nous, on se retrouve demain à 9h. Très bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Salut.